Lors d'une discussion ou d'un entretien, la seule chose que vous maîtrisez totalement, ce sont vos mots. Et ce qui est surprenant, alors que vous contrôlez 100% de votre discours, votre interlocuteur, lui, n'en perçoit pas plus de 10%.
55% de ce qui se passe pour quelqu'un qui me perçoit, 55% vient de mon corps, de mon attitude.
Parce qu'il est distrait, qu'il n'interprète pas de la même façon que vous, ou simplement parce qu'il ne les entend pas bien. Au-delà des mots, ce que vous contrôlez aussi partiellement, ce sont vos intonations. Autrement dit, la façon dont vous prononcez votre discours. Malheureusement, sous le coup de l'émotion, et aussi parce que votre cerveau est occupé à fabriquer votre discours, vous n'en maîtrisez que 30%.
Ensuite, il y a donc en effet 38% qui vient de la voix. La voix qui tremble quand on est ému, etc., va dire tout de suite ce qu'il en est de l'émotion.
En revanche, votre interlocuteur, qui a moins d'efforts à faire que vous puisqu'il est à votre écoute et qu'il reste passif, perçoit près de 40%.
Et 7%, à peine 7% viennent des mots. Alors évidemment, il faut quand même choisir son... C'est pas pour ça qu'il faut parler n'importe comment. Se dire, bon, finalement, peu importe ce qu'on dit. Non, il faut quand même une petite réflexion sur la sémantique.
Dernier élément, et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, ce sont vos gestes. Étant donné que votre cerveau est accaparé par tout ce que nous avons dit avant, il lui est impossible, sans entraînement, de maîtriser l'ensemble des automatismes primaires que l'homme s'est construit depuis des centaines de milliers d'années. Lors d'un entretien, nous ne percevons que 5% de notre attitude.
Quel mot on va choisir, quel registre, etc. Mais dans la communication, il faut considérer ces trois parties pour essayer d'optimiser au mieux son langage.
Sans nous en rendre compte, nous nous frottons le menton, nous nous caressons le genou, nous croisons les bras. Et ça, notre interlocuteur le perçoit inconsciemment, à près de 60%. Et c'est souvent le corps qui trahit les menteurs, ou au contraire, qui rendra votre communication beaucoup plus efficace.
Quand on se pince le nez, c'est quand il y a un problème. Un problème, les choses ne se passent pas comme on le voudrait.
Je vous rappelle qu'on a trois cerveaux. D'accord. Reptilien, c'est l'action. Limbique, émotionnel. Et le néocortex, celui qui nous donne l'impression d'être des êtres quasi divins, hein, la réflexion. Et là, on va se concentrer énormément sur le cerveau limbique et reptilien. Ces cerveaux-là, en fait, qui nous font agir, je dis bien agir, avant même que nous ayons conscience de l'action.
Deux micro-démangeaisons parmi celles qu'on a. Vous voyez, au niveau du nez, on en a une petite vingtaine, et tout le visage, quand c'est compliqué, quand on est curieux. Parce qu'elles ne sont pas toutes négatives, les micro-démangeaisons. Quand on est intéressé à mieux imaginer, oui, tu me parles de quelque chose, intéressé à projeter, à imaginer, on va ouvrir le sourcil, on va ouvrir les yeux aussi quand on veut mieux voir. On est curieux, on va se gratter le nez. Quand on ne veut pas entendre, quand... voilà, je peux pas, voilà, si. Quand on ne veut pas entendre, on va avoir ce petit mouvement ici. Quand on est agacé, quand on est contrarié à l'intervention de l'autre, l'agressivité contenue. Voilà. Donc ça, c'est tous les points de codification qu'on a repérés. Et la même chose au niveau du corps. Voilà, tous les points du corps, des fois c'est ici, des fois quand c'est lourd, des fois quand on veut s'extirper d'une situation, quand on ne se sent pas à la hauteur. Voilà tous les horizons de sens qu'on a observés, qu'on retrouve par croisement dans des situations différentes.
La synergologie, ça veut dire être ensemble dans la communication par les mouvements du corps.
Souvent, on pense que les gens qui se frottent le nez en parlant, c'est parce qu'ils sont en train de mentir, que quelqu'un qui penche la tête à gauche, c'est un signe d'empathie.
La zone du nez, c'est la zone de l'intimité et des secrets. Une personne qui va toucher son nez, c'est une personne qui est dérangée par le sujet ou la situation qu'elle est en train de vivre. Et donc, ce dérangement concerne un problème d'intimité ou de secret qu'elle a, qu'elle ne veut pas révéler.
Le premier à avoir travaillé sur la question, qui est quand même pas n'importe qui, Darwin, c'est quand même quelqu'un de très important, c'est le premier à s'être intéressé au corps qui parle, ce corps qui parle, qui est le même que celui que nous partageons avec d'autres mammifères. Donc, il a observé de manière scientifique différentes tribus, différentes cultures, pour voir ce qu'il y avait de commun, puisque notre cerveau limbique, notre cerveau reptilien, il est le même, quelle que soit la culture.
Aujourd'hui, on parle tous avec les mains, qu'on soit du sud, du nord, qu'on soit européen, qu'on soit asiatique, même si les Asiatiques ont des mouvements qui sont beaucoup plus près du corps, parce qu'ils expriment beaucoup moins leurs émotions, c'est une question de culture chez eux, on parle tous avec nos mains, avec notre corps.
Il y a quelque chose qui est prouvé, c'est que le cerveau gauche, c'est ce qui fait agir le corps droit. Donc le corps droit, mon corps droit est rationnel. Je vais faire des gestes plutôt carrés avec mon corps droit et avec mon corps gauche, sous le coup de l'émotion, je vais avoir des gestes plus hyperboliques, voilà, plus émotionnels.
Il n'y a pas que les émetteurs bruyants, comme moi, à l'instant où je parle, il y a aussi les émetteurs silencieux. C'est-à-dire, même si on ne parle pas avec notre bouche, notre corps peut parler.
Alors, il faut apprendre aussi, quand on décode quelqu'un, à le couper en deux, à couper en deux son visage. Je sais que c'est compliqué, c'est plus facile sur une image, sur une photo, mais c'est très intéressant de le faire.
Une personne qui penche sa tête vers la gauche, c'est une personne qui est en train d'évaluer ce que vous êtes en train de dire. Plus sa tête se redresse, plus elle est en désaccord avec vous. Lorsqu'elle commence à pencher du côté droit, c'est qu'elle n'est déjà plus en accord avec vous. Et lorsqu'elle penche la tête vers l'avant, c'est qu'elle n'est plus du tout d'accord avec vous.
Parlons d'une des parties les plus importantes de nous-mêmes, nos mains. Si elles sont ouvertes, elles sont synonymes de paix et de non-agression. En des temps reculés, cela permettait de montrer qu'on n'avait pas d'armes ni de mauvaises intentions. Si elles sont ouvertes et tendues, elles évoquent une menace, comme le tranchant d'une hache.
Le croisement de bras, en fait, on a entendu, c'est un classique. Parce que si je croise les bras, souvent on l'entend dans le recrutement, il ne faut pas croiser les bras, vous êtes fermé à la communication. C'est faux. En fait, il faut savoir que quand vous écoutez une personne et vous croisez les bras, votre cerveau s'éteint une fraction de seconde toutes les secondes. Ça veut dire que vous êtes en mode attentif, de réflexion, et c'est une position confortable.
Si le poing est fermé, il est signe de menace ou de violence mal contenue. La position main fermée détendue est quant à elle la position naturelle de repos. Elle n'a pas beaucoup de signification.
Le langage corporel inconscient, eh ben, il émerge inconsciemment. Et si on est intéressé par ce que l'autre nous dit, et si on fait attention à ce qu'on dit, eh bien, on est tellement concentré sur ce qu'on dit qu'on oublie son langage du corps.
Et me caresser. Alors, on ne va pas rentrer dans des détails qui vont affoler tout le monde, mais la caresse, ça peut vouloir dire deux choses. Tout dépend comment elle est faite. Soit je me caresse langoureusement, vous voyez, c'est agréable, et ça veut dire je suis bien. J'ai envie que ça dure, cette sensation, voilà, on est en train de me faire un compliment. Vous allez souvent remarquer que les gens, lorsque on les flatte, se caressent.
Nous avons ce qu'on appelle l'égobule, ou l'exobule. C'est une zone, l'ego c'est inférieur, c'est entre nous et 20 cm. Si je parle ou si je suis là, mon objet il est là, vous me dites quelque chose, je le rapproche et je vous dis oui c'est vrai ce que tu dis. Ça veut dire que je suis d'accord avec vous. Et ça on le voit souvent dans les gestes de séduction. Si, et on l'a vu, une personne qui est intéressée par l'autre, elle ne peut pas lui dire au premier rendez-vous parce que c'est peut-être un petit peu compliqué, il y a de la timidité, on n'a pas envie de froisser la personne que l'on a en face, donc on va prendre un verre et on va le rapprocher. Cela veut dire qu'on accepte. Par contre, si j'éloigne, au-delà de 20 cm, le propos ne m'intéresse pas, donc je le rejette. Mais je ne peux pas le dire à la personne, car je veux garder ce contact avec elle et je ne veux pas lui faire du mal dans la relation. Le corps, lui, va trouver un objet, cette subtilité, pour faire passer le message. Vous, si vous le voyez, ben, il a juste déplacé le verre.
Passe sa main dans ses cheveux, plus elle passe souvent la main dans les cheveux, plus cette fille est en train de vous dire de venir.
Batson montre une mère, en fait, disant à son enfant, viens dans mes bras, mon chéri. Viens dans mes bras, mon chéri. En se reculant et en fermant les bras. Et ça, c'est perturbant pour un enfant. Ça ne sera pas perturbant pour un adulte. Pour un adulte, c'est frustrant. Parce qu'on sent qu'il y a deux messages. Pas pour un enfant. Parce que il n'y a qu'un seul message et maman, elle n'emploie pas un double discours. Il faut déjà être ado, d'être un peu plus vieux, en tout cas pré-ado pour comprendre ça.
Le geste de mettre sa main dans ses cheveux, c'est comme si elle vous disait « Viens à moi, viens me parler ».
Vos mains ne sont pas fixes, elles bougent avec les bras et leur mouvement envoie d'autres messages à votre interlocuteur. Et oui, une main fermée détendu porté à la bouche indiquera que vous réfléchissez ou que vous marquez une pause avant de prendre la parole.
Et quand nous on voit un signal corporel qui apparaît, on se questionne pourquoi il a décalé le verre en dehors. Qu'est-ce qui a fait que ? Peut-être que je l'ai vexé. Donc là, j'ai analysé ce signal corporel, et bien je vais essayer de revenir dans la relation pour que l'objectif de la relation, elle soit authentique. Et de ne pas blesser la personne que j'ai en face de moi si je veux que la relation, elle reste positive.
Si elles ont un mouvement descendant, elles envoient aussi un message d'apaisement et symbolisent le feu qu'on éteint en les.
À l'époque des Cro-Magnons, eh ben, il n'y avait pas la parole. Ils ne parlaient pas. Et ils communiquaient comment ? Par les gestes. Et au fur et à mesure, dans l'évolution de la chaîne humaine, l'homme a acquis, a pris le temps d'apprendre pour parler. Et du coup, il est plus facile de parler et on oublie toute la lecture corporelle, tout ce que le corps peut faire passer.
Quand on est mal à l'aise, notre visage, notre corps, très inconsciemment, va plaquer sur notre visage un sourire. Peut-être pour que l'autre ne voit pas ce malaise, mais aussi soi-même pour sortir de cette situation de malaise.
Les gestes conscients, nécessaires à la communication qui transmet un sens. Un exemple, tout bête, je suis dans la rue, je lève la main pour appeler un taxi. C'est un geste conscient. Je suis conscient de mon geste. Je vois un ami dans la rue, je lui fais coucou, c'était un geste conscient.
À l'inverse, si une fille fait des mouvements inverses, ça veut dire qu'elle n'est pas intéressée par vous, elle se défait les cheveux, elle n'a pas envie de vous parler, à ce moment-là, il vaut mieux éviter de contacter la personne.
On pense que la personne qui nous ment ne nous regarde pas dans les yeux, par exemple.
C'est pas vrai.
Alors que précisément, celui qui nous regarde dans les yeux, c'est le menteur. Parce que la personne qui va commencer à regarder ses chaussures tout en vous parlant, on va dire, oulala, lui, il n'est pas clair. Et le menteur le sait, ça.
Nous avons les gestes mi-conscients. Par exemple, j'ai froid. Qu'est-ce que j'ai quand j'ai froid ? J'ai les frissons. Il faut savoir que votre corps, lui, quand il vous envoie le signal du frisson, il a déjà froid depuis quelques secondes. Donc, il prend d'abord conscience avant vous et vous envoie un message de dire « Oula, là, il commence à faire froid, je t'envoie un message, les frissons. » Vous le comprenez, vous mettez un pull, une veste. Ça, ce sont des gestes mi-conscients. Quand on a froid, on a aussi les lèvres qui deviennent violettes.
Lorsqu'une personne a les sourcils hauts, ça veut dire qu'elle est complètement soumise à vous. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, la personne vous écoute, elle est toute ouïe. Plus ses sourcils sont hauts, comme Calimero, plus elle est sous votre contrôle.
On pense souvent qu'une personne qui ne ment pas ne regarde pas dans les yeux. C'est tout à fait le contraire. Un menteur regarde bien droit dans les yeux.
Une microfixation, c'est je suis attentif à ce qui se passe. Ou alors, pas forcément, il y a ce qu'on appelle les macro-fixations. Donc micro, c'est tout ce qui est plus petit que moi. Si à un moment donné, je vous parle et que je suis en notion de stress, et que je me mets les deux mains sur la table. La table est beaucoup plus grosse que moi. Donc là, c'est une macro-fixation. Et j'ai besoin d'un objet beaucoup plus gros pour pouvoir me stabiliser. Ça peut être la table, ça peut être le poteau.
Son regard est fixe, son axe de tête est très droit, et elle cligne très peu des paupières, alors que normalement, quand on répond à des questions et qu'on réfléchit, on cligne beaucoup des paupières.
Les gens ont l'impression qu'une fois qu'on a le lexique corporel, on a tout compris. Mais non, parce que tout ça, ça évolue, c'est fin. Et c'est ça la synergologie. En fait, c'est trois choses quand même. C'est un lexique corporel, une théorie de la relation. Ça, c'est fondamental. Parce que par exemple, si je suis quelqu'un d'agressif, que je projette mon agressivité chez l'autre, très rapidement, l'autre va devenir en face de moi agressif. Et moi, de haut de ma science, de ma synergologie, je vais dire « Tiens, qu'est-ce que cette personne-là est agressive ?» sans me rendre compte que j'ai co-construit cette agressivité. Donc il y a vraiment une théorie de la relation avec le besoin de retrouver l'autre dans un rapport d'égal à égal. Et puis les méthodes de questionnement, de sous-questionnement. Parce qu'autrement, on tombe sur les pires jugements de valeur du monde. On dit « Ah oui, je sais ce que ça veut dire, donc j'ai même plus besoin de l'écouter l'autre. De toute façon, je sais ce qu'il pense, je sais ce que ça veut dire. » Donc la synergologie, elle est fondée sur des méthodes de sous-questionnement qui permettent d'aller plus loin et de comprendre réellement ce que la personne garde pour elle.
À l'inverse, plus les sourcils sont bas, plus la personne est en train de vous défier est en opposition avec ce que vous êtes ou ce que vous dites.
À partir du moment où tu as un stimulus extérieur, ça peut être une peur, la peur de renverser un enfant ou une image auquel tu repenses. Là, c'est une pensée intérieure, il y a un stimulus. Ce stimulus, en fait, va enlever l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre.
Les figuratifs, je vais parler avec vous. Et je vais montrer quelque chose. Moi, j'ai une maison, elle est comme ça. Elle est très grande comme ça. Et j'ai une voiture, elle est comme ça. Voilà. En fait, en faisant ces gestes-là avec mes mains, je vous mets à l'extérieur de la communication. Je suis obligé de me mettre à l'extérieur. Parce que je vous montre quelque chose. Je viens figurer quelque chose. J'ai un ordinateur, il est grand comme ça. Vous voyez ? Donc ça, ce sont les gestes figuratifs. Ou hier, j'étais à la pêche et j'ai pris un poisson gros comme ça. En fait, il était comme ça, mais je vais un petit peu exagérer.
Les gestes d'autocontact, se toucher en gros. On se touche tous, c'est normal. On se touche pour se rassurer en général. Alors on se touche, on peut se gratter. Quand vous voyez quelqu'un se gratter, en général c'est avec le bout des doigts, le bout des ongles, c'est une réaction nerveuse. C'est une réaction à un stress physiologique. Donc je me gratte, c'est nerveux. Je peux me masser. C'est un petit peu différent. Là, déjà, j'essaie de m'apaiser. Je ne suis pas juste en train de subir. J'essaie d'avoir une action sur moi pour me détendre. Donc, pression avec les doigts pour m'apaiser.
On a un lexique corporel qui va déterminer 1750 signes corporels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous vous grattez le nez, la joue.
Alors que si la caresse est nerveuse, ça ne veut pas du tout dire la même chose. Ça veut dire que là, je suis stressée et j'ai besoin d'un doudou et je vais me servir de mes cheveux pour me déstresser. Alors, à ne pas confondre. Tout dépend de la fréquence du mouvement.
Quand on commence la formation en synergologie, une formation en synergologie, c'est 3 ans. Et la première année, ce qu'on voit, c'est justement les mouvements des mains, les axes de tête, la position sur la chaise, la démarche, des choses assez simples. Mais il y a tellement d'informations que la première année, quand on parle avec quelqu'un, on discute, on écoute, ça va bien. Et là, tout d'un coup, il y a comme un ballon qui passe.
Oups.
Il y a un mouvement bizarre. Et là, oubliez ça, on n'écoute plus du tout la conversation. On est juste focalisé sur le non-verbal parce que c'est comme avoir, comme parler deux langues en même temps, mais complètement différentes.
On questionne à partir du langage corporel et pas de ce qui est dit.
Nous avons les gestes symboliques. Si vous faites de la plongée sous-marine, pour dire tout va bien, on est obligé d'utiliser un geste symbolique qui, lui, est universel. Vous l'avez fait. Voilà, c'est OK, tout va bien. Ça, vous le faites à un Chinois, à un Américain qui plonge avec vous, tout le monde le sait.
Plus la pupille d'une personne est dilatée, la pupille c'est le point noir qu'il y a au milieu des yeux, plus ce point noir est gros, plus vous plaisez à la personne. Pas forcément physiquement, mais en tout cas la personne est bien avec vous et plus sa pupille est dilatée, plus elle a envie que vous rentriez dans sa maison, plus elle a envie de faire connaissance avec vous.
D'accord. Du coup, tu vas avoir envie de te gratter, mais ça ne te gratte pas réellement. C'est juste ce mouvement du corps qui est intéressant à regarder pour un synergologue.
Quand on parle de se gratter, d'un point de vue mimétique, pour comprendre ce que l'autre dit, on est obligé de rentrer un peu dans ses états. Et donc, quand on parle de micro-démangeaisons, très souvent, les gens se mettent à se gratter. Pas forcément là, mais se mettent à se gratter. Ça, c'est l'empathie qui veut ça.
À l'inverse, plus la pupille est fermée et étroite, plus c'est un mur qui est fait entre vous et la personne. Et ça veut dire que vous devez éviter le contact, car une pupille resserrée, c'est une personne qui est en train de vous défier ou en tout cas qui veut vous voir vous éloigner.
En fait, il y a deux autres thèmes qui vont déclencher le même type de micro-démangeaison. Vous parlez de combien vous gagnez. L'argent, combien on gagne, puisque tu as des primes, puis c'est quoi ton salaire. Et très rapidement, les gens sont mal à l'aise, et même sans mentir, ils n'ont pas envie de parler de ça, parce que ça les regarde, c'est quelque chose qui ne regarde pas le grand public. Donc là, qui ne regarde pas les autres, donc là, on va avoir ces petites micro-démangeaisons, on les voit apparaître, et on les voit apparaître aussi dans toutes les questions de sexualité. Quand les gens évoquent les questions de sexualité, ça les met souvent assez mal à l'aise et souvent, très rapidement, on va voir ce type de micro-démangeaisons.
Alors, la différence culturelle. Donc, je vous ai parlé du cerveau reptilien, du cerveau limbique, mais évidemment, on est des êtres culturels et on a constaté une chose intéressante. C'est qu'on n'a pas la même façon de lire le visage de l'autre, d'une culture à l'autre. Et alors en Europe, on lit tout, c'est-à-dire qu'on lit les yeux, le nez, la bouche, il n'y a pas de problème, on part d'en haut, on va vers le bas. Et en Asie, on a repéré qu'il y avait une sorte de blocage au niveau d'en dessous le nez. On ne regarde pas la bouche. Alors pourquoi? C'est certainement culturel, on est les mêmes. Pourquoi la bouche, d'après vous? La bouche, c'est extrêmement sensuel. La bouche, quand vous faites des études dans le domaine de la publicité, c'est le signe numéro un qui peut provoquer une attirance sexuelle. Une bouche pulpeuse, c'est quelque chose qui est un avantage dans la vie.
On est dans une pièce, une toute petite fenêtre dans un coin, puis on va regarder à travers cette fenêtre pour réfléchir, l'esprit s'évade. Et donc ça, il y a quelque chose comme ça par rapport à ça. Sinon, dans l'émotionnel plutôt profond, un peu négatif, on ira plutôt en bas. L'émotionnel positif en haut, le cognitif, pareil, la réflexion, on va aller plutôt en haut. Il y a des règles de lecture comme ça. Et puis dernièrement, ce qu'on s'est aperçu, c'est que dans le traumatisme, on allait plutôt en bas à droite. Beaucoup de victimes des attentats, vont regarder en bas à droite.
Nous avons les gestes géospatiales. Donc là, on va situer une chose à l'extérieur. Là, je suis dans une pièce, l'extérieur, je ne sais pas comment c'est. Si vous me dites, le Japon, c'est où? C'est là-bas.
Si vous mettez la main devant la bouche, cela peut être assimilé à une tromperie. C'est un réflexe qui nous vient de l'enfance. Lorsque l'enfant fait une bêtise, il se cache les yeux en pensant qu'on ne le voit pas. C'est enfantin et inefficace et le geste disparaît en grande partie quand il grandit. L'adulte, lui, comme il ne peut pas cacher ses yeux, cache sa bouche. À l'âge adulte, ce réflexe enfantin peut signifier un désir de cacher un mensonge ou une ruse.
Une personne qui regarde en haut à droite avec les yeux, c'est une personne qui relate des faits qui se sont passés réellement et qu'elle a vécu et enregistré dans sa mémoire.
Je pourrais reprendre l'expression qui est de voir passer des ballons. Un synergologue va s'intéresser à certains gestes spécifiques.
Si, lors d'un entretien, vous venez apporter vos mains aux oreilles, cela peut être interprété comme une tentative d'isolement, comme l'enfant qui ne veut plus rien entendre. Cela peut dévoiler aussi votre angoisse. Si votre doigt se porte le long de la joue, il sera synonyme d'une réflexion dubitative.
Nous avons les gestes projectifs. Donc là, je fais rentrer mon interlocuteur dans la communication. Ça veut dire, si je vais vous dire quelque chose, et que vous ne me croyez pas, je vais faire des gestes projectifs. Mais si, crois-moi, je te promets, c'est arrivé.
Imagine-toi, tu es donc au volant de ta voiture et tu es en ville. La voiture roule, défile et tu as à droite, à gauche, des gens qui marchent, des enfants qui jouent, des personnes âgées qui sont assis sur le banc. Et d'un coup, tu arrives devant un passage piéton et une jeune fille avec un ballon traverse.
Il y a de nombreux mouvements involontaires qui trahissent nos émotions. Les gestes d'autocontact en font partie. Lorsque l'enfant est petit, sa mère le rassure par la voix et surtout par le geste, surtout en le caressant. Lorsque l'on grandit, nous refaisons instinctivement ces gestes.
Tu vois bien que l'équilibre de ton corps est perturbé, ton rythme cardiaque va augmenter et du coup tu évites en fait. Et ça c'est le ballon que tu viens de voir passer. Un synergologue va s'intéresser à certains gestes à un moment donné.
Les battements de paupières c'est fascinant et c'est toujours visible. S'il y a une nervosité, règle générale, l'humain battrait autour de 15 battements de paupières la minute. Ça peut être 14, 17, à peu près ça. Quand la nervosité s'empare de nous, eh bien, il y a énormément de clignements de paupières et j'ai des vidéos où on en voit un la seconde.
Il nous arrive de nous caresser le bras, le visage ou les genoux, ou encore de nous étreindre les avant-bras. Ces gestes indiquent la plupart du temps un malaise. Et oui, si on cherche à se rassurer, c'est qu'on ne l'est pas.
La plupart du temps, les croisements croisement de bras, pardon, ce ne sont pas pas signes de fermeture. Au contraire, c'est même plutôt signe de bonne qualité d'écoute.
Et nous avons les gestes d'engramme. Micro-caresse, encore une fois. Et souvent, c'est je pense à quelque chose, on discute, j'oublie le mot et je fais... Comment ça s'appelle déjà? Je viens stimuler cette zone-là, du bout des doigts, qui dedans, il y a des capteurs qui vont stimuler soit l'hémisphère gauche, soit l'hémisphère droit, qui va chercher l'information qui est très bien classée dans mon cerveau, et en la stimulant, je viens stimuler ce zone.
Une personne qui regarde en haut à gauche, c'est une personne qui invente et qui construit des choses qu'elle n'a pas vécues. Elle est en train de les créer pour les enregistrer dans sa mémoire. Donc une personne qui vous ment aura tendance à regarder en haut à gauche, parce que ce qu'elle est en train de dire est qu'une construction.
Quand tu vas te frotter le bout du nez, c'est quelque chose, il y a... Ça sent un peu le non-dit, le mensonge.
D'autres mouvements sont intéressants à relever. Elle donne comme un coup de pied avec sa jambe vers ma direction, ce qui m'indique un stress et qu'elle me met à distance. Ensuite, elle passe son doigt sous le nez du côté gauche plusieurs fois. Ce geste indique quelque chose de caché par rapport à elle.
Ce geste-là me dit « Ah, il y a des choses qui ne sont pas dites ou la vérité n'est pas totalement là ». Du coup, à moi de poser des questions, et c'est l'art de questionner, de poser la bonne question qui va te faire exprimer des choses que peut-être tu n'avais pas envie de me dire.
Une personne qui regarde en bas à droite, c'est une personne qui se parle à elle-même dans sa tête. Une personne qui regarde en bas à gauche, c'est une personne qui est en train d'essayer de ressentir des choses. Donc elle construit encore quelque chose, elle essaie de ressentir des émotions, des sensations. Ou bien c'est une personne qui essaie de se souvenir d'actions qu'elle a faites.
Par exemple, tu vas te frotter l'œil gauche et vers l'extérieur, c'est que tu as envie d'avoir plus d'images, tu es en train d'aller chercher plus de visuels. Et derrière, je vais te poser des questions qui vont te permettre de plus t'exprimer sur ce que tu es en train d'imaginer.
Abordons maintenant les mouvements de bras. Il y en a trois. Le long du corps, les mains tendues en avant et les bras croisés.
Et en fait, c'est embêtant de ne pas regarder la bouche. Regardez bien la bouche de vos interlocuteurs. Pourquoi ? Parce que quand on est en colère, qu'est-ce qu'on faisait avant ? D'ailleurs, on continue à le faire, mais on essaye de se retenir. On mordait les gens. Et oui, il y a une contraction de la mâchoire très forte au niveau de la bouche quand on est en colère. On serre les dents, les crocs apparaissent. Et donc, la colère, l'animosité... Elle commence par la bouche. Donc, regardez bien la bouche.
Si la position des bras le long du corps est naturelle pendant la marche, elle est vite inconfortable, debout, à l'arrêt. La pression sanguine donne des fourmillements ou fait gonfler les mains. Du coup, pour éviter cette gêne, nous mettons simplement les mains dans les poches, nous les croisons devant ou derrière le dos. En soi, cette position est juste une recherche de confort. Et si vous cherchez le confort, c'est que tout va bien. Et vous n'avez pas l'intention de mettre un terme à la situation.
Alors, ça c'est terrible, ça c'est une très mauvaise nouvelle, je suis désolée, mais en un dixième de seconde, c'est-à-dire qu'en dessous du seuil de la conscience, lorsque l'on se voit pour la première fois, vous m'avez vu là, vous m'avez attribué 5 traits de caractère, obligatoires. Vous n'avez pas pu faire autrement que de vous dire, elle a l'air... super sympa, etc., etc. Et tous, vous m'avez attribué un potentiel de confiance. Elle m'inspire confiance ou elle ne m'inspire pas confiance. Pourquoi ? Parce qu'on est des animaux et qu'on a besoin de savoir à qui on a affaire, si cette personne est dangereuse ou plutôt si ça va être mon allié. Et ça, ça se fait en dessous du seuil de la conscience et on a remarqué via des études, que c'est ce que la confiance qu'on inspire à quelqu'un, c'est ce qu'il y a de plus difficile à changer dans l'esprit de l'autre, même sur des années. Si vous avez inspiré une mauvaise confiance dès le départ, ça va être très dur de rattraper le coup.
Lorsque vous tenez vos mains devant vous, un peu comme un joueur de football faisant le mur lors d'un coup franc, vous pouvez être dans la recherche de confort, comme nous l'avons vu juste avant. Mais aussi dans une attitude de protection. Instinctivement, nous nous protégeons le ventre et le bas-ventre, qui regroupent beaucoup d'organes vitaux et qui ne sont pas protégés par les os de la cage thoracique. Pour savoir si l'attitude de votre interlocuteur est une recherche de confort ou de protection, il faut observer ses autres gestes et le ton qu'il emploie lorsqu'il...
Vos jugements, vos a priori ou vos perceptions sur une personne vont vous faire croire que la personne ment alors que tout simplement elle vous dit la vérité. Et l'inverse est aussi vrai pour vous. Si vous êtes en stress ou gêné par certaines questions, vous allez montrer un corps de menteur alors que vous, vous dites la vérité.
C'est souvent l'intention des gens qui vont enseigner ou les écoles qui vont enseigner le langage corporel en faisant une promesse de dire « Maintenant, tu vas connaître le langage corporel, tu vas pouvoir t'adapter. »
Lorsque vous croisez les bras, l'interprétation la plus simpliste est la méfiance, la fermeture à l'autre. On se protège et on crée une barrière solidement fermée par les mains qui bloquent le mouvement. C'est beaucoup plus subtil que ça. Selon la position des épaules et du reste du corps, vous pouvez simplement être en recherche de confort, comme nous l'avons vu plus haut, et vos épaules seront alors plus détendues. Vous pouvez aussi être en recherche d'autocontact, comme nous l'avons déjà dit, et vous caresser le bras ou simplement le tenir. Le geste devra donc être analysé dans son contexte, afin de ne pas faire de fausses interprétations.
Il y a vraiment cette idée Je suis dans ma position de surplomb et je vais comprendre l'autre et je vais avoir un pouvoir sur lui. Alors que toute ta démarche, c'est l'inverse. C'est au service de la relation, tu essaies juste de montrer que prendre en compte les gestes de l'autre, c'est pouvoir s'adapter à l'autre, le comprendre.
Pour retenir, c'est qu'il est beaucoup plus difficile qu'on le croit d'identifier un menteur, car ça demande beaucoup de concentration, il faut poser beaucoup de questions,